Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. On démarre cette nouvelle semaine avec vous et on est ravis évidemment de vous retrouver pendant ces 3 heures de direct jusqu'à 15 heures. On est ravis également de retrouver Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Salut Estelle et bonjour à tous.
Notre économiste préféré, Pierre Rondeau. Salut Pierre.
Le seul, salut Estelle, salut à toutes et à tous.
C'est vrai, je le dis souvent, c'est le seul qu'on connaisse. Voilà.
Avec John Maynard Keynes, comme d'habitude, mais il y a mal.
Mais on le connaît moins. Enfin, je veux dire, on le connaît plus et à la fois on le connaît moins. Enfin, on le fréquente moins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On est également avec Emmanuel Dancourt, journaliste indépendante à Dijon. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Moi aussi, Pierre, c'est mon économiste préféré.
Et puis, on est avec Perico Légas, journaliste à Marianne. Salut Perico.
Moi, je ne fais pas d'économie, donc je n'ai pas besoin.
Oui, mais ça, on avait bien compris. Allez, au sommaire, aujourd'hui dans Estelle Midi, le RN donnait large vainqueur des législatives dans un dernier sondage. Les jeux sont-ils déjà faits? On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC pour réagir. François Hollande, candidat aux législatives dans la première circonscription de Corrèze. Est-ce que c'est génial ou gênant? On en parlera à midi et demi. À 13h, le nouveau Front Populaire qui promet un SMIC à 1 600 € net mensuel en cas de victoire. Vous êtes pour, vous êtes contre. 13h30, ce sera le zapping, le meilleur du jour sur RMC. À 14h, le boom des séjours en camping-car, plus 10% de réservations en un an. Mais les vacances en camping-car, pour vous, c'est l'enfer ou le paradis. Il y aura RMC Conso à 14h30. On parlera du co-living, une tendance qui explose dans les grandes villes et qui mêle colocation et résidence hôtelière. Et puis, on vous fait gagner un fantastique cadeau sur RMC, Rémi.
L'Euro 2024 a débuté et chaque jour, RMC vous envoie en Allemagne pour assister à tous les matchs de l'équipe de France. Nous vous proposons de vivre l'expérience RMC. Le voyage à Dortmund, vol et hôtel, la rencontre avec les équipes RMC avant le match. Et bien sûr, vos deux places pour France-Pologne qui se joue le 25 juin prochain. Dès que vous entendez cette alerte, vous aurez alors 5 minutes pour vous inscrire, tenter votre chance en envoyant euro par SMS au 732-16. Euro par SMS au 732-16. Vos places pour France-Pologne se gagnent uniquement sur RMC.
RMC Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC, on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est ce sondage IFOP paru hier dans le JDD qui donne le RN largement en tête des législatives. Le parti de Jordan Bardella progresse encore à 35% contre 26% pour le Front Populaire et 19% pour la majorité présidentielle. Le RN, Rémi, qui poursuit sur sa lancée des européennes.
Mais tu l'as dit, le RN toujours largement en tête selon ces différents sondages. Ils se suivent et ils se ressemblent tous. J'en ai pris un autre. Tiens, un sondage OpinionWay qui a été dévoilé samedi. Le Rassemblement National, c'est un exemple parmi d'autres, un recueil 33% des intentions de vote au premier tour des législatives devant le nouveau Front Populaire à 25% et la majorité présidentielle à 20%. Les Républicains obtiennent 7% des voix, Reconquête 3%. Et l'un des principaux constats de cette enquête, de cette étude, c'est que en fait les électeurs RN apparaissent comme étant les plus sûrs de leur choix. Seuls 13% d'entre eux disent pouvoir changer d'avis, alors que c'est 27% par exemple pour les sympathisants du nouveau Front Populaire. L'incertitude, elle est encore plus forte du côté des électeurs de la majorité présidentielle. Ils sont 36% d'indécis, c'est-à-dire à dire bah voilà, aujourd'hui je pense voter pour la majorité présidentielle, mais il se peut que je change d'avis d'ici là. Et là, cela, ça pourrait bouger encore plus. Conséquence du ralliement d'Éric Ciotti au RN, c'est du côté des sympathisants traditionnels des Républicains. 67% de ceux qui pensent voter les Républicains disent encore pouvoir changer d'avis et de vote au dernier moment.
Alors, les jeux sont-ils faits en ce qui concerne ces législatives, Perico Légas?
C'est inéluctable et fracassant. Parce qu'ils ont... Le Rassemblement National remportera une victoire inéluctable et fracassante parce qu'ils ont le meilleur directeur de campagne de tous les temps qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Voilà, le Front Populaire fait tellement peur, pas l'aile modérée du Front Populaire. Mais la France Insoumise joue tout le monde à la surenchère en faisant des propositions, en tenant des propos quasiment de guerre civile, qu'effectivement l'électorat indécis...
Exagère un peu, non?
Non, parce que le calcul du président de la République, c'est quoi? La situation va être tendue, on va un peu instiller de la peur dans l'opinion, ils vont voter pour le pouvoir en place, qui en général, c'était ce qui s'est passé en 68. On revient vers le pouvoir en place, la stabilité. Mais face au Front Populaire et à la partie excessive, il y a une partie tout à fait acceptable en Front Populaire, il y a la social-démocratie, mais face à la partie excessive qui est majoritaire, là, l'électorat qui a peur, qui d'habitude va vers le pouvoir, va dire mais non, on va aller vers le parti de l'ordre encore plus établi. Et finalement, la dynamique, elle est là. Et certains sondeurs m'ont dit au-dessus d'un certain seuil, le 30% au premier, plus de 30% au premier tour, la dynamique mathématique est inéluctable. Alors ensuite, il peut y avoir un séisme politique, fracas, un grand traumatisme.
Et puis le Front républicain et ça, quand même.
Oui, alors le Front républicain, c'est fini, ça marche plus. C'était le Front populaire et ils l'ont tué. Alors que si les socialistes avaient dit, écoutez, on va faire avec la partie un petit peu progressiste de la Macronie une troisième voie, on aurait pu casser le système. Là, tel que la configuration est construite, tout est fait pour que le Rassemblement national l'emporte. C'est à se demander si Jean-Luc Mélenchon ne souhaite pas la victoire du RN pour créer une situation chaotique qui lui permettrait d'émerger plus tard.
Pierre Ronvaux, est-ce que vous êtes étonné par cette progression du RN ? C'est vrai qu'à un moment, on aurait pu se dire, tiens, après les européennes, voilà, ça a été une fois un rejet, mais finalement, ça va se tasser derrière. Mais ça progresse encore par rapport aux européennes.
Non, je ne suis pas étonné. C'est une dynamique qui fait suite directement aux élections européennes. C'est trois semaines après. Donc, évidemment, si les gens ont voté RN aux européennes, ils vont continuer
à
voter.
3,5% par rapport au score des européennes.
Il y a une dynamique, il y a une colère, il y a un refus, il y a un militantisme prégnant. Non, je ne suis pas étonné. Après, il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir sur ce débat et sur ce qu'a dit Perrico. Premier élément, sur le débat, est-ce que la victoire est inéluctable et est-ce que le RN va arriver au pouvoir et va nommer un gouvernement ? Il faut quand même rappeler des faits et des faits concrets. Les élections législatives, ce sont des élections locales, majoritaires à deux tours, binomales. Autrement dit, là, quand on a les sondages, ce sont des sondages nationaux. Et d'ailleurs, je suis allé voir dans l'histoire récente, depuis le début des années 2000, aucun, tu vas parler à des sondeurs, Perrico, aucun sondage de législative n'a montré, là, avec une marge d'erreur faible, ce qui est devenu l'Assemblée nationale après les élections.
On aura Bernard Sananès, d'ailleurs, directeur de
local, c'est par circonscription. Les sondages ne sont pas par circonscription, donc bien évidemment, même si tu as 30% de votants RN au premier tour, au second tour, si tu as 30% RN, tu as 70% dans l'opposition. Donc ça ne veut rien dire sur les 30% aujourd'hui au premier tour, c'est-à-dire 70% ils sont opposés.
Non.
Mais ce que te dit Perrico, c'est qu'au deuxième tour, le Front populaire peut faire peur.
Tu as une division des voix, et le deuxième élément, c'est, là je vais directement montrer du doigt et désigner Perrico Léguin. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon vous fait peur ? Est-ce que vous avez des affiches de lui dans votre chambre avec des fléchettes et vous lui envoyez tous les jours ? Il l'a dit sur tous les plateaux qu'il ne serait pas candidat au poste de Premier ministre. Il a dit sur tous les plateaux qu'il se retirerait progressivement de l'appareil politique du Front populaire, qu'il laissait faire ses lieutenants, qu'il laissait faire cette union de la gauche. Jean-Luc Mélenchon, arrêtez de croire que c'est un problème.
Manifestement, il y avait Alexis Corbière qui était sur ce même plateau. Il y a 5 minutes qui a dit que c'était un problème.
Très certainement.
Et Alexis Corbière, ça a été un très proche de Mélenchon.
Alexis Corbière est un frondeur qui n'a pas été maintenu par LFI.
Oui, en fait, qui connaît bien Jean-Luc Mélenchon.
Oui, mais qui peut aussi avoir une certaine aversion contre lui. Et deuxième élément, si tu passes l'appareil politique à LFI, dimanche dernier sur BFM, c'était Emmanuel Bompard.
Oui, c'est
Jean-Luc Mélenchon se retire. Arrêtons de faire une fixette sur Jean-Luc Mélenchon.
Oui, mais le problème, c'est que tout le monde fait une fixette sur Jean-Luc Mélenchon.
Et qu'ils ont peur de lui à l'intérieur.
Arrête de faire une fixette sur lui.
Mais je fais une fixette sur lui.
Presque... Stop.
Non, pas du tout.
Stop, je voudrais entendre Emma. Taisez-vous. Emma, est-ce que le fait que le RN monte, c'est aussi la preuve que finalement ces manifestations anti-RN qu'on voit depuis quelques jours n'ont pas d'effet finalement ?
Non, c'est la preuve de rien du tout. C'est la preuve que le RN est un trou noir qui absorbe tous les mécontents et peut-être aussi notamment les déçus du macronisme. Mais alors moi, je crois au sursaut, vraiment. Je suis peut-être idéaliste.
Et de qui ?
Je crois au sursaut des autres, de ceux qui sont contre le RN. Non, mais de ceux qui sont contre le RN.
C'est tout à fait possible.
Parce que, si vraiment les gens qui votent RN s'intéressaient un tout petit peu au programme, ils verraient que économiquement, ça tient pas debout, qu'ils sont faibles sur l'immigration, sur l'international, sur la macroéconomie, sur la culture. Ils sont faibles dans plein d'endroits, quoi. Mais les gens ne s'intéressent même pas au programme, en fait.
Mais tu vas avoir des gens qui te disent la même chose du programme du Front populaire.
Et moi, je crois, tout à fait.
Le programme. Comment tu veux faire ? Il y a que 10 jours de campagne.
Bien sûr, c'était conçu comme ça aussi par Macron. Mais on est d'accord, on est complètement. Après, moi, je pense que le seul sondage qui vaille, c'est le jour J, dans les urnes. On verra. Et je suis très sensible à ce qu'a dit Pierre sur le fait que c'est des circonscriptions. Moi, je suis dans la 4e circonscription de Côte d'Or. On a un LR, une RN, ULFI. Eh ben, on va voir ce qui va en ressortir au second tour. Mais voilà, on va faire aussi avec les gens qu'on connaît, parce que c'est des gens de terrain. Alors après, je sais que les législatives, c'est une élection d'étiquette, malgré tout. Mais je suis très, très...
Ça va se jouer.
C'est pas les municipales non plus.
Ça va se jouer.
C'est pas les municipales non plus.
Ça va se jouer dans les circonscriptions et elles seront nombreuses, où il y aura un RN face à un France Insoumise. Je dis pas un Front Populaire. Quand on aura vraiment un mélenchoniste face au RN, là, vous avez une partie de l'électorat modéré, y compris qui aurait voté Macron au premier tour, enfin pas un candidat de la Macronie, qui entre le diable et l'enfer.
Et tu vois, par rapport aux manifs, parce que je t'ai pas répondu sur les manifs. Là, il y en a eu une ce week-end.
Exactement.
Il y a quand même du monde. Bien et puis nous, je l'avais déjà raconté la semaine dernière sur ce plateau, on est 140 associations féministes, ONG et syndicats à organiser une énorme manif dimanche prochain, le 23, pour que tous les candidats puissent prendre dans leur programme en compte les droits des femmes. Mais c'est aussi une manif anti-RN, on va pas se mentir, parce que le RN est absolument pas du côté des femmes, et du côté des droits des femmes, et du côté des droits des victimes. Donc c'est pas fini les manifs, en fait. Il y en a qui arrivent, et celle du 23, elle va être énorme, mais on va faire du bruit, parce que c'est une manif avec des sifflets.
Très bien. Ah, mon Dieu.
Oui. Venez nombreux.
Dommage pour ceux qui habitent juste au-dessus.
Ah, bah oui.
Notre invité sur ce débat, c'est Bernard Sanès. Il est président de l'Institut de sondage ELA. Bonjour, Bernard.
Bonjour, Estelle Denis. Votre débat est animé, comme toujours.
Oui, exactement, Bernard. Mais alors, c'est vrai que là, on se pose beaucoup de questions sur les sondages. Et bah, moi, personnellement, je suis étonnée de voir le RN qui monte encore dans les sondages par rapport à ce que c'était aux élections européennes. Quelle est votre explication là-dessus? Est-ce que c'est parce que Reconquête se délite, notamment?
Alors d'abord, tous les sondages ne montrent pas une progression du RN, mais tous les sondages montrent en tout cas que le RN rééditerait son score à minima. Et certains, effectivement, indiquent qu'il pourrait faire plus. Pourquoi ? Parce que les raisons de la colère qui alimentent et qui nourrissent le vote RN, je ne dis pas que ce n'est qu'un vote de colère, mais en tout cas, les raisons de la colère n'ont pas changé depuis 8 jours. Non. Les problèmes de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration, d'accès aux soins, etc., n'ont pas disparu. Donc il faudrait être naïf pour penser d'ailleurs que les Français sont incohérents et qu'ils diraient se déjuger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en revanche, c'est que est-ce qu'il y a dans les abstentionnistes, est-ce qu'il y a dans les autres électorats, des électeurs qui vont se dire « bon, finalement, on n'a pas été voté aux européennes, mais pour le législatif, c'est important, et là, on va y aller ». Notamment, dans le premier sondage que nous avons réalisé, et là, pour BFM TV et RMC, on voyait que les électeurs de gauche et les électeurs de Renaissance étaient plus mobilisés qu'aux européennes. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, il y a un troisième effet, sous réserve, bien sûr, de tout ce qui peut se passer en 13 jours de campagne, parce que par rapport à une campagne qui dure d'habitude 1 mois, 2 mois ou 6 mois, là on vit la campagne en accéléré, donc c'est sûr que le film il peut beaucoup bouger à plus d'images par seconde. Mais il y a une question qui est majeure, c'est est-ce que la peur du Rassemblement National va encore jouer? Dans une question qu'on a publiée hier avec vos confrères de BFM et de la Tribune dimanche, on voyait qu'un Français sur deux se disait inquiet par la perspective d'accès au pouvoir du Rassemblement National. Ouais. Alors 50%, 1 sur 2, on peut le prendre en
La bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, quoi.
On peut considérer que c'est une relative victoire de la stratégie de dédiabolisation du RN. On peut aussi se dire que c'est 50% qui sont inquiets, même s'ils ne se votent pas sur le même camp, et c'est ça qui les divise, parce que ce n'est pas front contre front, puisqu'il y a 3 blocs. Ces gens qui sont inquiets, peut-être qu'ils vont aller entre les 2 tours, Péricot Légas parlait de l'entre-deux tours, qui va être évidemment décisif, qu'ils vont aller faire, non pas barrage au Rassemblement National, mais en tout cas faire un autre choix que le Rassemblement National. Moi, je ne crois pas à l'idée de barrage, et en tout cas, le barrage Front National se heurtera aussi à la question du barrage vis-à-vis du Front Populaire, parce qu'il y a des électeurs qui voudront faire barrage à Jean-Luc Mélenchon et à la perspective que la France Insoumise soit au pouvoir.
Alors justement, c'est ma question, parce que c'est ce que disait Péricot Légas tout à l'heure. Alors, il parlait de la peur du RN, mais la peur aussi, allez, on va dire, de Jean-Luc Mélenchon. C'est comme ça qu'il le disait, en tout cas. Est-ce que dans votre sondage, quand vous avez dit, est-ce que le RN vous fait peur, est-ce que vous avez fait le même sondage avec le nouveau Front Populaire, par exemple?
Non, mais on va le faire. C'était trop tôt pour le faire. On attendait les derniers événements. Mais on va le faire, évidemment, parce que c'est important. Alors, cette peur, comment elle se manifeste? Ça peut être une peur sur les conséquences économiques. Et c'est sûr que la Macronie va beaucoup jouer là-dessus. Dans les gens qui sont le plus inquiets de cette perspective, il y a par exemple les cadres et les retraités. Les cadres et les retraités sont plus inquiets que la moyenne. Est-ce qu'ils peuvent revenir vers le vote macroniste? Et puis je note qu'il y a 30% de gens qui se diraient satisfaits de la victoire du RN. Ça correspond à peu près à l'intention de vote, pas de surprise. Mais il y a 20% de Français, un Français sur 5, qui se dit indifférent. Indifférent, ça veut dire quoi? Soit ils considèrent que, de toute façon, c'est un politique comme un autre, le RN, ça ne changera rien. Soit ils considèrent que même s'il n'est pas d'accord avec le RN, de toute façon, ils ne voient pas ça comme une catastrophe pour le pays. Donc ces 20% d'indifférents, il faut les suivre aussi. On va reposer la question dans les 2 semaines qui nous séparent de la campagne pour voir comment cette inquiétude évolue ou pas. C'est une des clés, finalement. Est-ce qu'on aura l'envie, est-ce que l'envie du changement sera plus forte que la peur du changement? Est-ce que l'envie du chamboule-tout sera plus important que la peur du changement? Ça, c'est un des déterminants du scrutin.
Et on va suivre ça, bien sûr, tous les jours qui viennent. Et puis, et vos nouveaux sondages, bien sûr. Vous avez le droit de sonder jusqu'à quand, Bernard Sananès?
Jusqu'à le vendredi soir, veille d'élection, ça doit être le 28 ou le 29.
28
minuit.
Eh bien, on continue à suivre ça avec beaucoup d'attention. Et merci beaucoup pour toutes ces explications. Et vous êtes très nombreux à nous appeler au 3216 pour réagir. Il y a Mehdi, notamment, qui nous appelle. Mehdi de Morcourt, dans les Yvelines. Bonjour Mehdi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous, merci bonjour. De nous recevoir.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Mehdi, vous allez voter le 30 juin ?
Je n'ai pas loupé une seule élection depuis que j'ai commencé à voter. Super. À 10 ans. C'est pas le cas de tout mon entourage. Par exemple, ma femme qui est désespérée et ne se reconnaît dans personne. Et pour moi, franchement, je vous pose une question. Est-ce que c'est nouveau, le scénario là ?
Ça, depuis bah, un peu quand même, ouais.
À voter, ça a toujours été comme ça.
Il y a
toujours
le RN à 35% législatif, c'est nouveau, je vous assure, Mehdi.
Oui, mais au dernier sondage, c'était jusqu'à 28%. Il y a une abstention totalement dingue qui fait que on a l'impression
là, c'est moins le cas.
Ils sont hauts, c'est moins le cas.
Effectivement,
il y a un changement qui se fait. Même nous, quand on discute avec des gens, il y a des formes de souplesse. Moi, jamais de ma vie, j'aurais pu un jour imaginer mettre un bulletin pour le RN ou le Front National. Et d'ailleurs, je ne le ferai pas. Néanmoins, j'ai des amis avec qui je discute, qui sont dans cette écriture-là, qui me disent qu'ils vont le faire. Et il m'explique pourquoi, c'est que mine de rien, ça fait 25 ans, 40 ans qu'ils votent, il y a rien qui change.
Ils sont on les a pas essayés quoi.
Il y a personne qui leur parle. Et le RN, moi je vais continuer de dire le Front National parce qu'en vrai ils peuvent s'appeler comme ils veulent, c'est toujours la même essence.
Tout à fait.
En vérité, ce sont toujours les mêmes idées avec une forme de réécriture. Et ça va parler à des CSP+, mais ça parle pas au commun des mortels et à monsieur, madame, tout le monde. Hein. Et c'est là où les restes des politiques, ils ont totalement décroché. Ils veulent pas leur parler. Et
ils essayent.
Ils n'y arrivent pas. Ils ont déconnecté de la réalité depuis 17 ou 20 ans. C'est trop facile d'arriver maintenant. Genre, ah non, il faut faire le barrage, etc. Et de l'autre côté, on a monsieur Mélenchon, là. Je suis désolé, qui a un plébin. Moi, il me fait flipper encore plus que le reste. Parce que lui, il me parle encore moins que les autres. Hein.
Comme disait Pierre, Jean-Luc Mélenchon, il sera pas Premier ministre. Voilà, là, c'est pas qu'il a pas envie. Hein. Là, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'il a très envie. Mais personne n'a envie autour de lui. Donc, à un moment, oui, on peut pas être seul contre tous non plus. Ouais, donc, il ne sera pas Premier ministre. Il ne sera pas Premier ministre. Et je suis pas sûre qu'aujourd'hui, le nouveau Front Populaire ait très envie de le voir en campagne. Vous voyez, je pense qu'ils ont bien compris que c'était aussi un repoussoir.
C'est quand même
maintenant des gens comme eux. Voilà, ça reste le patron. Et on a, on va dire, des modérés qui sont un petit peu autour et qui vont éteindre l'incendie. Non, mais vous ne vous inquiétez pas, on sera là pour surveiller. Mais en vérité, c'est quand même un grand personnage politique du paysage français, qu'on le veuille ou pas, et qu'on n'adhère pas à ses idées.
Ah ben bien sûr.
Ils sont un peu tous là en train de se jouer la balle. Et le fait est qu'au milieu, il n'y a pas un milieu fort. Et là où avant, c'était incarné. On aimait, on n'aimait pas. Voilà, il y avait des gens modérés qui avaient des vraies propositions. Mmh. Et aujourd'hui, la seule proposition, c'est il faut barrer les extrêmes. C'est pas une réponse pour le peuple, en fait.
J'entends. Mais merci beaucoup, Mehdi, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci pour ce coup de gueule. On va du côté de Dijon, ça va faire plaisir à Emma. Ben oui. Avec Sébastien. Bonjour, Sébastien.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Sébastien, est-ce que pour vous, les jeux sont faits ? Est-ce que la victoire du RN, c'est inéluctable ? Ça y est, c'est fait ?
Non, ça va pas être évident. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie qui est déployée pour contrer le RN. Les syndicats de juges, les syndicats tout court. Les gens dans l'opposition qui disent ah ben non, surtout pas au grand jamais le RN parce que c'est des fachos, c'est des racistes. Mais en fait, le problème, apparemment, ça marche pas, quoi. Ça marche pas, ce discours-là ne marche plus. Et aujourd'hui, les gens en ont marre. En fait, ils ont peur. Beaucoup de gens ont peur de la suite. Et quand on voit Mélenchon en face, on se dit, on a encore plus peur. Et quand j'entends derrière vous que...
Mais Mélenchon sera pas en face, en fait.
Il tire les ficelles. Il est le chef de la gauche aujourd'hui.
Pour l'instant, non.
Il est le leader du Front Populaire.
Demain, ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui que ça sera pas lui Premier ministre?
Le temps joue pas tout à fait en sa faveur, vous voyez. On n'est pas sûr. C'est pas Gabriel Attal ou Jordan Bardella, vous voyez.
Je me souviens toujours de La République, c'est moi. Ça, c'est une image qui m'avait marqué.
Oui.
Cet homme-là n'a peur de rien, absolument de rien.
Mais en tout cas, là, normalement, je veux dire, il sera pas Premier ministre. Mais ce qui est assez fou, et c'est vraiment ce que disait Péricot au début, c'est que il cristallise l'image en fait du nouveau Front Populaire et que en fait. Finalement, ils ont beau faire, même les PS modérés, eh ben ils arrivent pas à s'affranchir de cette image-là. Je vois Pierre Rondeau qui est atterré parce qu'on a eu le débat il y a une demi-heure.
La loge de maquillage tout à l'heure, ça faillitait.
Mais je n'ai pas fixé. Il est le patron.
Pas toi, mais beaucoup d'autres. Tout le monde en parle.
Tous les auditeurs pensent ça, en tout cas.
De Garrido, rendez-vous compte. Et de Corbière, il a eu la tête de Garrido parce qu'il passe uniquement parce qu'ils l'ont critiqué.
On a pareil du parti.
C'est l'image qu'il renvoie. Tu le vois bien avec tous ceux qui nous appellent.
Par exemple, hier sur BFM Politique, c'était Emmanuel Bompard l'invité. C'était pas Jean-Luc Mélenchon.
Mais ça, tout le monde s'en fout.
Non, mais d'accord, mais dans le sens, celui qui
apparaît plus,
tout le monde s'en fiche, Pierre.
Du tout, il décide de tout.
Tout le monde s'en fiche peut-être, mais je rappelle un fait. Aujourd'hui, dans la dynamique de campagne, Jean-Luc Mélenchon se met de côté.
Oui, mais tout le monde ne voit. Oui, mais on ne voit pas de
côté. On l'a vu.
On retient effectivement Corbière, on retient Garrido, on retient Simonet, mais Mélenchon se met en retrait.
Médiatiquement. Est-ce que Ruffin n'incarne pas l'avenir?
On ne voit pas.
Plein d'autres.
On ne voit pas. On l'a vu sur un. On l'a vu sur un tweet là ce week-end pour dézinguer justement Jean-Luc Mélenchon à propos d'Adrien Quatin. On en avait parlé vendredi d'ailleurs.
Et t'as vu, je t'avais dit qu'Adrien.
Exactement.
On avait tout fait, nous, pour qu'ils ne tiennent pas, les féministes.
En attendant, il est parti. Les causes qui font monter le RN depuis 30 ans n'ont été résolues par aucune majorité. C'est pour ça qu'il continue.
Mais il n'est pas du tout sûr que le RN réussisse à les résoudre.
Et pour les gens qui disent on n'a jamais essayé le RN.
La question est même pas ça. La question, pourquoi il monte? Parce que les causes qui font que les gens votent pour lui n'ont pas été résolues. Je ne dis pas ce qu'ils vont faire. Je vous dis que c'est ça qui s'est passé et ça va de pire en pire.
Et pour les gens qui disent on n'a jamais essayé le RN, je le dis et je redis, moi, je n'ai jamais essayé la coke, je n'ai jamais essayé l'héroïne. Et il ne faut pas. C'est pas un argument, quoi. Il y a des choses qu'il faut pas essayer. On n'a jamais essayé la dictature non plus en France. Il faut pas essayer, quoi.
On a quand même essayé. Hein. Ouais. Ça n'a pas très récemment. Il y a une période où, quand même, oui, effectivement. Rémi, on termine avec des messages sur la pierre MC.
Allez, ce message de Damien qui nous dit oui, les jeux sont faits pour moi. Damien qui est inquiet hein, et ça va mal se passer. Si c'est le RN qui arrive au pouvoir, la gauche ne l'acceptera pas. Ça se passera dans la rue. Si le Front Populaire passe, on sera sous tutelle d'extrémistes, là encore une fois, en tout cas, ça c'est mon avis, et là encore, il y aura une forte déception si les gens ne voient pas arriver ce que promet aujourd'hui le nouveau Front Populaire. Dans tous les cas, on est mal. Voilà ce que pense Damien.
Alors, on a fait un sondage, en tout cas, sur cette question. La victoire du RN est-elle inéluctable?
Mais c'est oui, oui, pour une forte majorité de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. Ils sont 67% à estimer que oui, c'est inéluctable, cette victoire du RN.
Dans un instant, on parlera de la surprise du week-end. Alors, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas. François Hollande, qui va être candidat aux législatives dans la première circonscription de Corrèze. Est-ce que pour vous, c'est génial ou est-ce que c'est gênant? On en débat avec vous dans un instant sur RMC. À tout de suite. Allez.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Attention. Il est midi 31, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barre et avec Pierre Rondeau, Emmanuel Dancourt et Perico Légas. Et on va tout de suite s'intéresser à la surprise du jour. Et c'est vrai qu'on ne l'attendait pas, cette surprise. C'est François Hollande qui sera candidat aux législatives dans la première circonscription de Corrèze. Il se présentera sous la bannière Nouveau Front Populaire. Alors c'est une première hein, pour un ancien président de la République. Et c'est peu dire, Rémi, que les réactions ont été nombreuses ce week-end.
Ouais, des réactions de tous bords. Hein. Réactions d'abord au niveau local. Nicolas Marlin, c'est le secrétaire fédéral du Parti communiste de Corrèze. Il parle non pas d'une couleuvre à avaler, mais d'un python à avaler et précise qu'il fera campagne pour le programme du nouveau Front Populaire, mais pas pour l'homme. Ambiance. François Ruffin, l'un des fondateurs du nouveau Front Populaire, s'interroge lui. Est-ce qu'on peut croire que M. Hollande s'est converti en une nuit, que d'un seul coup le voilà favorable à la retraite à 60 ans, que d'un seul coup le voilà favorable à l'indexation des salaires sur l'inflation? J'en doute. Plus dur encore, on n'est jamais si bien corrigé que par les siens. Manuel Valls, invité d'RMC dans la matinale du week-end, tacle son ancien président. L'ex-premier ministre parle d'une faute politique et morale, rien que ça. Enfin, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, on sait qu'il y a une certaine ferveur orale, eh bien, il ferme le banc. Il juge cette candidature pathétique et suggère à M. Hollande de prendre Philippe Poutou comme suppléant. Ça fera un très bel attelage.
Alors, François Hollande, candidat aux législatives, est-ce génial ou gênant? Emmanuel Dancourt.
Bah, les deux, ça dépend d'où on se place. Ça, moi, je trouve ça improbable. Et en même temps, on sait que François Hollande, c'est vraiment un homme politique. Il a la politique dans le sang. C'est quelqu'un qui cherche à revenir, on le sait aussi, qui était en train de consulter un peu partout, mais alors avant les législatives, hein. Bien évidemment. Et donc, il se remet dans le jeu. C'est pas Giscard qui avait fait ça?
Il s'est représenté, hein, il a été élu, absolument.
C'était en région, lui. C'était, c'était en tant que président de région, il me semble. Pas en tant que
député. Non, député. Il a été.
Non, il me semble, là, c'était pas. Alors, c'est pas la petite porte, mais il était. Il avait, et puis, ça s'était pas très bien terminé derrière. Mais voilà, donc c'est quand même. Sur le coup, je me suis dit, tiens, faire. Personne nous a jamais fait ça. Et quand tu cherches, si quelqu'un l'avait déjà fait.
Ça nous avait échappé.
Ah, c'est vrai.
Et il était génial, l'Assemblée.
Bon, alors après, on sait qu'il a eu Glucksmann au téléphone et qu'ils se sont mis, Glucksmann a appelé François Hollande. Et ils se sont mis d'accord pour se dire, attention, soutien à la construction européenne, soutien à l'Ukraine, les actes du 7 octobre, c'est bien commis par le Hamas qui est donc terroriste, etc. Ils se sont mis d'accord sur les lignes rouges à ne pas franchir. Après, voilà, c'est vrai que sur le fond et sur la forme...
Il y avait un doute sur ces questions.
Non, pas du tout. Ils sont mis, en tout cas, ils se sont téléphonés pour se dire ça. Ils
très
se
sont téléphonés
pour se dire ça. Et après... il a envie de jouer sa partition au détriment du maire de Tulle, François Hollande. Il la joue, on verra ce que ça donne. Plusieurs gens disent qu'il aurait dû jouer sous sa propre étiquette, mais on sait, comme je disais tout à l'heure, c'est des ce sont des législatives, des élections d'étiquette. Mmh. Et donc, il va se mettre à un endroit où, effectivement, on ne l'attendait pas parce qu'il est d'accord avec la retraite à 60 ans. On sait bien qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et
le
tout
CICE,
ça.
C'est lui aussi.
Mais en fait, l'idée de ce front de gauche, c'est qu'on s'engueulera plus tard. C'est pour l'instant, il y a le RN à battre. Et il y a le RN à battre.
C'est tout à fait ça.
Il y a le RN à battre. Et on s'engueulera plus tard. Et moi, je l'entends.
Et les macronistes ne mettent pas de candidat en face de François Hollande parce qu'ils le jugent effectivement modéré.
Ils appellent à soutenir le candidat de la droite.
Oui. Mais enfin, en tout cas, ils ne lui mettent pas de candidat devant.
Mais donc, ils soutiennent les Républicains.
Pierre Rondeau, vous qui avez travaillé avec François Hollande, vous l'attendiez cette candidature et est-ce que ça fait partie du personnage ?
Je ne l'attendais pas, ça fait partie ou non du personnage, mais en tout cas c'est sûr que je ne l'attendais pas et c'est une surprise. Moi il va y avoir un biais dans ma réponse parce que moi je l'aime beaucoup François Hollande, j'ai travaillé avec lui 2 ans c'est vrai, enfin pas directement avec lui mais en tout cas au sein du PS entre 2015 et 2017. Et je rejoins effectivement Emmanuel, on s'engueulera après. Il y a rien en commun, on est d'accord, entre le programme ou l'état d'esprit de la social-démocratie hollandaise avec LFI, c'est une évidence totale. Le but aujourd'hui, en 3 semaines, est de battre l'extrême droite et de battre le Front National, le Rassemblement National. On s'engueulera après. C'est une union électoraliste, c'est une union pour les législatives. Une fois à l'Assemblée, il y aura des débats, il y aura des travaux en commission, il y aura des amendements, ça va évoluer. Aujourd'hui.
Mais ça vous gêne pas, vous?
Moi, aujourd'hui, ce qui compte pour moi, et je pense pour tout le peuple de gauche, ce qui va compter, c'est de battre le Rassemblement National. Ouais. Le côté pragmatique, je dirais, de cette gauche, de se dire, OK, on met de côté, on met sous le tapis, on avale des couleuvres, des pitons, le temps de la campagne. Une fois élu, on aura battu le Front National.
En fait, c'est un peu le repas du dimanche soir où tu sais, quand t'as rien dans ton frigo. En fait, tu dis, tiens, on va quand même finir les restes. Ça. Et alors, tu mets tout. Et ça n'a aucune cohérence, mais tu te dis, oh, c'est pas grave, mais ça te nourrit. Tu prends une pâte feuilletée. C'est le four du tout. Tu prends une pâte feuilletée, tu fous tout à l'intérieur, un peu de gruyère et c'est réglé.
C'est le repas de famille avec l'oncle pour lequel t'es pas d'accord, avec la tante pour laquelle t'es pas d'accord. Mais au final, c'est la famille.
C'est la tarte à tout.
C'est la famille.
En attendant, tu
manges. Faut voir ce qu'on met dedans parce que parfois, ça peut être indigeste.
En attendant, tu sauves ton repas. Voilà, tu sauves ton repas.
Faut pas qu'il y ait des produits périmés quand même.
Ouais.
Perico Legas, votre œil aiguisé sur ce. Mais personne.
On va sortir des paramètres culinaires pour lesquels j'ai le plus grand respect.
Bien sûr.
Revenir à plus des réalités. Il y a un phénomène. À mon avis, c'est la vraie tragédie de cette dissolution. Emmanuel Macron a spolié la gauche socialiste de sa victoire. 14% de Raphaël Glucksmann, il les a spoliés.
Ça, c'est vrai.
En dissolvant, le débat n'est plus aux européennes, on n'a même plus entendu parler de Glucksmann, mais il y a cet électorat-là qui est allé voter Glucksmann, et non pas Manon Aubry, ni l'écologie, parce qu'ils veulent redonner à ce socialisme modéré français, parti du gouvernement qui a participé à l'histoire de France, une légitimité. C'était formidable, 14%. Et on a ce putsch institutionnel que provoque la dissolution, qui fait que Glucksmann est out, et Olivier Faure, qui était un petit peu en réserve de Glucksmann, se jette dans les bras pour sauver, comme il a fait en 2017 et 2022, pour sauver quelques postes au parti. Hollande, François Hollande est mandaté par cet électorat, je veux dire, c'est sa légitimité. Ensuite, est-ce que lui est un bon choix? Il est mandaté pour essayer de sauver les meubles de ces 14%.
Je crois qu'il s'est mandaté lui-même.
Oui, mais sauf que Glucksmann l'a envoyé, et il dira pendant la campagne, et si il sera élu bien sûr, il dira, attention, je suis un parti socialiste qui a fait Front Populaire contre le Rassemblement National, mais je ne suis pas soumis à la France Insoumise. Ça veut donc dire que ces gens-là vont se déchirer. S'ils constituent une majorité, même absolue, Front Populaire, et que la tendance Hollande représente 10, 15, 20 députés, ça veut dire que ces gens-là ne pourront pas gouverner ensemble, parce que comme tu l'as dit, mais c'est encore plus violent qu'avec la Macronie, les dissensions entre le mélenchonisme et le hollandisme, qui a quand même mené un gouvernement totalement à droite et libéral. Quand tu vois les commentaires que la France Insoumise a fait à l'époque, elle faisait sur Hollande, avec la scission qu'il y avait au sein du PS.
Mais vaut mieux ça que le RN.
Comment tu penses que les Français interprètent cette résurgence du président de la République, qui a le droit de se présenter, c'est son droit. Mais enfin, c'est un stratagème politique pour essayer de maquiller la réalité, de sauver les meubles. Ça ne prend pas. Et à mon avis, c'est une erreur politique majeure. Il aurait fallu envoyer quelqu'un d'autre que lui. Lui, il est incrédible, voilà.
Et aujourd'hui, François Hollande, il est plus proche d'Emmanuel Macron que de Jean-Luc Mélenchon.
Donc,
effectivement, il y a un truc qui... En fait, c'est illisible.
Il représente une voix, et la voix française, je pense, de la social-démocratie, avec Raphaël Glucksmann, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas d'entente et d'accord avec LFI. Il n'y a aucune connexion, aucune logique entre les deux programmes. Il cautionne à des fins électoralistes.
Les Français en veulent encore de ça.
Les Français en veulent. Ce qui est sûr, c'est que je rappelle une chose très importante. Il y a une différence entre les programmes de campagne et les programmes de gouvernement. Une fois au gouvernement, à l'Assemblée, dans les travaux parlementaires, tu as des amendements, tu as des travaux de commission.
Alors à quoi ça sert de faire un programme
ça sert à gagner. À quoi ça sert de faire un CV? Ça sert à décrocher le rendez-vous.
Tu mens jamais sur ton CV. Tu ne mens pas sur ton CV.
Exactement, tu mens pas sur ton CV.
Alors là, ce que vous me dites, c'est qu'en fait, on ment pas,
mais c'est la politique française, c'est la politique tout court.
Moi, je peux pas te dire ça.
Les promesses de campagne, c'est toujours ça.
Je vais vous lire un message.
Faut être un peu naïf quand même.
Un message qui nous arrive sur le texte qui pointe justement ça. Message de Anthony, un électeur parmi d'autres, mais qui est très représentatif, je pense. Donc, on s'engueulera après. Rien de mieux pour mettre le bazar et la France à genoux. Rien de mieux, si jamais la gauche arrivait au pouvoir, pour faire arriver le RN au pouvoir en 2027.
Excusez-moi, le RN, c'est très la même chose quand on parle de programme. Le RN, tout ce qu'ils ont promis, ils ont reculé. Ils nous parlaient de la fin de l'euro.
Mais en fait, RN, en fait, les gens, ils ne votent même pas pour un programme. C'est ça la différence.
Alors, je vais dire une phrase, mais qui sera extrêmement cynique, et c'est moi qui l'assume. Je ne suis pas candidat, donc je l'assume.
Vas-y.
À quel moment un homme ou une femme politique a respecté son programme? À quel moment? C'est seulement un homme ou une femme politique.
J'ose espérer qu'ils essayent. Pardon, Pierre. J'ose espérer qu'au moment où tu fais un programme politique, tu y crois et que tu te dis que tu vas faire ce que tu dis. Sinon, attends, qu'après tu sois confronté aux réalités, que ce soit pas possible, c'est une chose. Mais en revanche, quand tu fais un programme politique, t'as pas le droit de mentir aux Français. Et tu dois dire ce que tu comptes faire.
Un idéal, un combat, un dessin, mais pas ligne par ligne des annonces programmatiques.
Je partage totalement ce que vous dites. Ce n'est pas du cas ça, mais il faut tenir compte des circonstances et je vais pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Je suis désolé, il y a eu Nicolas Sarkozy, la crise financière de 2008. Il avait promis des choses qu'il n'a pas faites. Il avait promis des choses qu'il n'a pas pu mettre en place. Et il ne faut pas oublier que François Hollande, je ne défends ni l'un ni l'autre. Il y a eu la crise Covid. Personne ne l'avait
fait. Il y a eu les attentats, il y a eu tout.
Donc, non mais c'est facile de dire aucun candidat n'applique jamais son programme. Il y a aussi. Il y a des choses qui ne sont pas appliquées, il y a des promesses qui ne sont pas tenues, il y a des promesses aussi qui ne sont pas tenues parce qu'elles ne peuvent pas l'être.
Alors,
c'est tout.
Je voudrais qu'on prenne tout de suite en ligne Mathieu qui nous appelle de Comines dans le Nord et qui est kinésithérapeute. Bonjour Mathieu.
Bonjour Estelle, bonjour toute l'équipe.
Bonjour. Mathieu, vous l'avez pris comment cette nouvelle de François Hollande qui est candidat aux législatives?
Moi j'ai eu un fou rire. On est à 8 jours de. On est à 8 jours d'un message qui est porté par plus de 30% des gens qui ont voté. Et en fait, on met les mêmes, on prend les mêmes et on recommence.
Il a quand même un passé. Vous trouvez pas ça bien quand même qu'un président de la République aille de nouveau battre la campagne, quoi?
Il y a un passé. Moi, je vois à titre personnel. Hein. Moi, c'est le président qui nous a plongé, quoi.
Oui.
Franchement, moi, je travaille 65 heures par semaine et on n'a pas vu clair pendant 5 ans avec lui. Hein.
Oui. Ouais, donc vous, en fait, donc, voilà.
Il peut faire barrage. Il va faire des voix localement et c'est tout. Hein, c'est tout.
Après, c'est ce qui compte aux législatives, c'est de faire des voix localement. Et s'il peut permettre au nouveau Front Populaire d'avoir une voix en plus, c'est toujours ça de pris.
Ouais, après s'il soutient le retrait de la loi anti-squat, s'il soutient un revenu d'autonomie pour les moins de 30 ans, on est encore en train de mettre la valeur travail en plein milieu. On est en train de reprivilégier tous les gens qui sont hors la loi, quoi. Enfin, moi, ça m'écœure.
Merci beaucoup en tout cas Mathieu d'avoir été avec nous. On a Jean-Baptiste également en ligne qui nous appelle de Blagnac en Haute-Garonne et qui est cadre. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors vous trouvez ça formidable François Hollande?
Je trouve ça absolument génial.
D'accord, expliquez-nous pourquoi.
Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait moi je pense, vu les sondages, je pense que le RN n'aura pas la majorité absolue au Parlement. Ils vont faire un peu plus d'un tiers. En Marche ou Ensemble, ils vont faire un peu moins d'un tiers. La gauche, ils vont faire un tiers. Oui. Donc, ça va être on est d'accord que ça va être ingouvernable.
Oui.
Donc, il va falloir trouver une synthèse à peu près au milieu gauche. Et qui est la meilleure synthèse que François Hollande pour Premier ministre?
Oula! Ah oui, alors là, c'est vrai que celle-là, on ne l'avait pas.
Moi, je l'annonce. Je l'annonce, François Hollande, Premier ministre.
Ouais, alors là, ce serait, là, pour le coup, majorité. Un président qui devient Premier ministre, ça c'est jamais fait.
Avec Ensemble, qui va accepter, et la gauche démocrate.
Ah oui. Enfin, ça fait pas la majorité non plus.
Je rappelle que c'est très joli comme projet. C'est pas une élection à la proportionnelle. Ça marche pas comme ça. Voilà. Ça marche pas comme ça. Je suis désolé.
Excuse-moi, si t'as trois blocs, effectivement, il va bien falloir élire un Premier ministre. Donc tu vas être obligé d'avoir un Premier ministre du consensus. Tu vas ni prendre un Premier ministre des LFI, ni prendre un Premier ministre du RN, c'est évident. Donc tu devras prendre un Premier ministre du style Place Publique, PS,
ou alors t'as une France ingouvernable pendant 3 ans.
Oui, mais ingouvernable ou pas, il te faut un Premier ministre.
Non mais rien.
Mais tu vas pas. Non mais enfin, Pierre, un moment.
En Belgique ou en Belgique, la Belgique n'a pas
comme gouvernement. Mais d'accord, on n'est pas la Belgique que je cherche.
Oui, mais si on n'arrive pas à trouver une majorité,
tu es obligé.
Non mais je vous rejoins.
Tu vas avoir un Premier ministre.
Il faut des accords entre LFI, PS, En Marche et ouais. Oui, je suis d'accord. Mais si on n'arrive pas à trouver justement ces coalitions ou cette coalition majoritaire. Il n'y a pas de gouvernement, il y aura en permanence.
Ça dépend du nombre.
Tu auras un Premier ministre et un gouvernement.
Juste un truc, moi, je me suis demandé pourquoi François Hollande, d'un seul coup, il s'est dit qu'il allait y aller. On se souvient que le lendemain de la dissolution, il était à Tulle, Macron, pour commémorer le drame de Tulle qui avait eu lieu le 9 juin 1944. Et il a vu, Hollande, il a vu Macron hyper relax, hyper détendu, dire à tout le monde, ça va bien se passer. Et je pense qu'il a pris la mesure aussi de l'inconséquence de cette dissolution et du fait que Macron n'était pas au niveau. C'est, à un moment, ça peut basculer en quelques minutes, une décision. Et moi, je me demande si ça ne s'est pas joué à Tulle le 10 juin.
Alors, on a fait un sondage. En tout cas, merci Jean-Baptiste d'avoir été avec nous. On a fait un sondage. François Hollande, candidat aux législatives, est-ce génial ou gênant ?
Lorsque François Hollande a quitté l'Élysée, enfin avant de renoncer plutôt, lorsqu'il a annoncé son renoncement, il était à peu près à 4% d'opinion favorable. Et il remonte. Il remonte puisque c'est génial pour 12% de ceux qui sont prononcés.
Ça fait x3. Hein.
Bah, c'est x3 et c'est donc gênant pour 88% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
88% de gênant.
Oui.
Avec la photo du conseil des ministres avec François Hollande face à Emmanuel Macron à l'Élysée, ça vaut son pesant d'or.
Ouais, en vrai on a presque envie.
Si c'était.
Le coq, Rémi.
Le coq, c'est l'alerte. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour vous inscrire, pour tenter de remporter votre expérience RMC dans le cadre de l'Euro 2024, le voyage à Dortmund en Allemagne, vol plus hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC avant le match. Ce match, ce sera 2 places pour la rencontre entre la France et la Pologne le 25 juin. Donc vous avez 5 minutes pour envoyer euro par SMS au 7-32-16. Euro par SMS au 7-32-16.
Allez, dans un instant, on parlera des jeux qui approchent. C'est le moment d'acheter peut-être une nouvelle télévision, mais laquelle choisir ? Eh bien, Anthony Morel va nous permettre de faire notre choix entre tous les téléviseurs qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est une chronique qui durera jusqu'à à peu près 17h. Ouais. Voilà, à tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 12h50 sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Et voici tout de suite Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Alors Anthony, ça y est, l'Euro de foot a commencé, les JO c'est pour bientôt, et qui dit Euro et qui dit JO dit nouveau téléviseur. Voilà, on attend souvent les grandes compétitions sportives pour s'équiper, mais alors là c'est pas toujours facile de s'y retrouver entre les 4K, les OLED,
LCD, on peut y passer des heures. Alors évidemment l'idée c'est pas de vous dire quelle télé en particulier acheter, parce qu'on pourrait y passer très très longtemps, l'idée c'est plutôt de vous donner quelques critères à retenir si vous voulez acheter une télé. Et notamment si vous consommez beaucoup de sport. Le critère numéro 1, c'est quoi ? C'est la taille de l'écran. Hyper important, évidemment. Plus l'écran est grand, plus l'expérience va être immersive. Et là, mon conseil, c'est de plus avoir de complexe. Les télés, elles ont vraiment grandi ces dernières années. Maintenant, le modèle standard, c'est entre 55 et 65 pouces. Donc, c'est 1m60 de diagonale.
D'accord.
1m60 de diagonale, c'est quand même pas mal. On disait avant, vous savez, ouais, mais attends, si t'as un petit salon, faut éviter d'avoir un grand écran. Il faut avoir toujours trois fois la taille de la diagonale entre la télé et le canapé.
Bah non, c'est moche.
Mais non, c'est plus vrai maintenant. Mais beaucoup moins. C'est-à-dire que maintenant, la qualité d'image est tellement importante, si vous voulez, que même si vous êtes relativement près, ça passe. Si vous êtes à 1,5 fois, on va dire, la taille de la diagonale, ça passe vraiment sans aucun problème. Donc non, n'ayez pas trop de complexes par rapport à ça. Et après, si vous voulez un très grand écran, vous pouvez avoir des vidéoprojecteurs, mais ça fera l'objet d'une autre chronique. Bah, mieux,
bah, c'est moins moche.
On pourra en discuter, c'est moins intrusif, ça c'est vrai. Deuxième élément important, c'est la technologie d'affichage. Alors, on disait OLED, micro-OLED. L'OLED, c'est le roi, hein, c'est le nouveau truc, enfin nouveau. C'est l'une des technologies les plus récentes. Il y a des niveaux de contraste incroyables, des couleurs absolument dingues, sauf que ça coûte extrêmement cher. Donc si vous cherchez un bon rapport qualité-prix, là c'est quand même du 1000 euros minimum pour les modèles d'entrée de gamme, c'est cher. Bon rapport qualité-prix, c'est plutôt des modèles LCD, c'est un peu moins cher et pour le coup, vous allez avoir quand même une très bonne qualité d'image pour regarder du sport, ça passe nickel. Ensuite, vous avez la résolution. Alors, il y avait la 4K, maintenant il y a la 8K.
Ah bon ?
Bah oui, l'ultra ultra haute définition. Alors, c'est des trucs
ça
de
fou. Ça sert à quoi ?
Bah ça sert à avoir une meilleure qualité d'image, sauf que attention aux arguments commerciaux parce que le problème, c'est que l'euro et les JO ne sont pas filmé en 8K. Donc du coup, vous l'achetez.
Ça fait une télé normale.
Bah, ça fait une télé, oui, c'est ça. Alors il va y avoir des contenus. Et puis sur certains jeux vidéo, par exemple Dernier Cri, c'est pas mal d'avoir un écran 8K. Mais enfin, si c'est juste pour l'euro et les JO, faut pas que ce soit l'argument principal pour acheter la télé, quoi, parce que c'est pas ça qui va vous servir en réalité.
Anto, il y a de plus en plus de télé qui proposent un mode sport ou un mode foot. Ouais. C'est vraiment utile ?
Non, pas vraiment. C'est ce que disent tous les experts de l'image. Alors c'est un argument marketing aussi. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va fluidifier un peu l'image, ça va améliorer les contrastes, mais sauf que vous allez souvent vous retrouver avec l'effet, vous savez. Gazon vert fluo. Ça sursature les images et moi j'aime pas non plus, je préfère avoir des teintes un peu plus naturelles. Donc franchement non. En revanche, il y a un élément très important à regarder si vous achetez une télé et que vous voulez regarder beaucoup de sport, c'est le taux de rafraîchissement. Ça c'est un petit élément, ça se compte en hertz, il faut au moins 100 hertz. Mmh. En gros, c'est ce qui va dicter la fluidité de l'image, hyper important quand vous avez une action au foot évidemment, vous voulez pas qu'il y ait des lags, faut que l'action soit parfaitement fluide et ça c'est vraiment un élément à garder en tête. Et le dernier truc, c'est évidemment le son, qualité sonore. Et rien
t'achètes une barre.
Bah oui, non mais c'est ça. Non mais faut
sinon,
le dire.
Le son il est derrière.
Je suis d'accord. Mais oui, mais maintenant là aussi il y a des arguments marketing. Maintenant on met du Dolby Atmos dans les télés, c'est assez qualité, mais ça ne remplacera pas une bonne barre de son en termes d'immersion vraiment.
Et ça a beaucoup baissé.
Exactement. Vous en trouvez vraiment pour pas très cher.
On parle beaucoup d'IA dans cette émission. Est-ce qu'il y a des télés avec de l'IA ?
Bah oui, ça arrive aussi. Figurez-vous des télés où on va injecter de l'intelligence artificielle. Alors c'est pas mal. C'est pas mal.
J'aurais peur que la télé me regarde.
Alors ça, on fera une autre chronique parce qu'il y a aussi ce sujet-là. Mais celles-ci elles n'ont pas de caméra embarquée. Vous inquiétez pas. En revanche, elles ont une IA qui va permettre plusieurs choses. D'abord, elles vont upscaler l'image, c'est-à-dire améliorer la qualité de l'image. Vous partez d'une image médiocre et vous allez arriver à une image très 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 bonne qualité. Ça, c'est pas mal. Et deuxième chose, elles vont surtout comprendre le programme que vous êtes en train de regarder et s'y adapter parce qu'on n'a pas les mêmes besoins en luminosité quand vous regardez, je sais pas, un film d'horreur ou un match de foot, c'est pas la même chose. Eh ben oui. Et donc là, elle va comprendre que c'est un match de foot. Elle va comprendre qu'il y a un ballon à l'écran. Et donc, la netteté du ballon, en gros, elle va comprendre là où vous allez regarder. Et vous allez avoir, en fait, une meilleure netteté d'image sur les éléments qui vont attirer l'œil du spectateur.
Pardon, mais si j'achète une nouvelle télé, c'est pour que normalement l'image soit bonne. Ouais.
Non, mais l'image, elle est
bien. Mais c'est pas la peine d'acheter une nouvelle télé.
Non, mais d'accord, mais on aurait pu dire la même chose il y a 10 ans. Or, entre une télé d'il y a 10 ans et une télé d'aujourd'hui, la qualité d'image, elle s'est complètement transformée.
Moi, j'ai ma télé depuis 10 ans et ça me va très bien.
Mais c'est pas vrai, vous avez un vidéoprojecteur.
Non, mais ça, c'est pour une autre pièce.
Ah bon, d'accord.
C'est un tout petit vidéoprojecteur.
Ah bon, voilà.
Non, mais sinon, j'ai ma vieille télé, elle est très bien.
Mais
enfin,
oui,
écoutez.
Vous allez voir. Le jour où vous allez en changer, vous allez me dire, oh là là, mais comment est-ce que j'ai pu être avec cette vieille télé?
De toute façon, je la regarde pas. Merci beaucoup, Anthony Morel, tous les jours. On n'arrête pas le programme, midi 50, dans Estelle Midi. Et bien sûr, en podcast, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, on parlera du Front Populaire qui propose un SMIC à 1600 euros net mensuel en cas de victoire. Pour ou contre, dites-nous ce que vous en pensez au 32 16, à tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.